Donc nous allons aborder le deuxième aspect qui touche la responsabilité. On pourrait dire que le premier aspect de la responsabilité s'opposait à l'irresponsabilité. Et ici, dans ce deuxième aspect, c'est par rapport au sentiment de se sentir victime plutôt que responsable de sa propre vie. C'est clair qu'on a certainement autour de soi ou en soi-même des exemples de personnes qui se sentent toujours victimes de l'existence ou de leur propre vie. Et ici, il s'agit de voir comment le sens de la responsabilité intervient et ce qu'il implique. Dans la tradition bouddhique, une manière quelquefois de sentir le poids du passé comme si quelque chose était au-delà de notre possibilité, c'est la notion de karma. Et cette notion du karma est quelque chose d'assez complexe et aussi qui fluctue dans la tradition bouddhique. Quelquefois, certaines traditions la mettent plus en avant, d'autres la mettent beaucoup moins en avant. Et il y a aussi une acceptation populaire de ce terme-là. Quand je dis populaire, ce n'est pas certainement uniquement populaire en Orient, mais c'est aussi populaire en Occident. Prends un raccourci pour dire accusant le karma un peu trop rapidement. Alors le karma, le terme karma vient de la racine sanskrite kri, qui veut dire faire, agir. Et cette notion du karma, dans la tradition bouddhique, veut qu'une action vertueuse amène des fruits heureux, souhaitables, une action non vertueuse amène à des fruits non souhaitables, malheureux, difficiles. Donc on pourrait se demander, lorsqu'on a affaire à des difficultés, si ceci est justement l'effet du karma, c'est-à-dire d'actions passées. Voilà pourquoi je dois faire l'expérience de difficultés à l'heure actuelle. Mais il est évident qu'aucun lien réel peut être établi. Sinon, on parle d'autre chose, on parle d'accident. C'est clair que si je bricole et que je me tape sur le doigt avec un marteau, je ne vais pas accuser le karma, je vais accuser ma maladresse. Il semblerait que ça ne servirait à rien ici d'essayer de trouver une cause un peu étrange. Donc le karma est surtout évoqué quand on ne peut pas faire de lien. Et dans la plupart des cas, évidemment, on ne peut pas faire de lien simple de causalité. Et à ce moment-là, donc, c'est mes difficultés, on pourrait aussi dire évidemment, mais au contraire, mes expériences heureuses dépendraient aussi du karma. Mais en général, on se préoccupe plus des causes dans les difficultés et de dire voilà, ceci vient de mon karma. Ou alors accuser une autre personne, dire voilà, c'est son karma ou c'est ton karma. Ça veut dire tu ne l'as pas volé. Ce qui est évidemment une manière assez rude de s'exprimer. Et ce qu'il y a dans cette notion de karma qui nécessite d'être questionné, c'est que comme le karma se réfère à des actions passées, et qu'on est bien obligé d'admettre que le passé n'est pas présent, qu'il n'existe pas, comment est-ce qu'il peut agir à l'heure actuelle? Comment est-ce qu'une action qui n'existe plus agit sur moi en ce moment? Alors on peut trouver des justifications complexes, mais qui ne sont jamais convaincantes, pour essayer de savoir comment ceci peut agir sur moi en cet instant. On va essayer d'envisager quelques cas pratiques. Par exemple, Anna Freud disait que pour qu'il y ait un traumatisme, il faut deux chocs. Un choc réel et un choc imaginaire. Et ceci amène une réflexion intéressante. On comprend très bien le choc réel, mais lui n'existe plus à la fin de ce choc. Mais le choc imaginaire, lui, est perpétué dans la conscience. Si, d'une certaine manière, j'ai un empêchement entravé par une inhibition due à un traumatisme, il est clair que cet imaginaire est avec moi à chaque instant. Si, lorsque j'entends un bruit, j'ai peur, au moment où j'entends ce bruit, je suis mis dans une situation qui était la situation similaire à celle du choc civil et du traumatisme, mais c'est bien la mémoire en ce moment qui agit. Donc ce n'est pas le traumatisme réel, si vous voulez, mais c'est bien l'imaginaire qui reste d'actualité. On pourrait imaginer une situation où voilà, deux personnes sont dans une voiture, prenons deux enfants du même âge, et puis il y a un petit accident, on ne veut pas dramatiser les choses, mais un enfant peut rester complètement craintif, traumatisé, et l'autre pas du tout. Et donc, ils ont exactement les mêmes séquelles, il n'y a pas de différence d'âge, on n'a pas trouvé des justifications à l'extérieur. Donc un enfant reste traumatisé, il a très peur en voiture, il est crispé, et l'autre peut-être pas du tout. Donc l'effet n'est pas du choc qui s'est passé, mais il est bien qu'est-ce qui reste dans leur conscience. Pour un des enfants, il reste quelque chose, il reste constamment à l'esprit lorsqu'il entre dans une voiture, les images, etc., même si elles sont inconscientes de ce passé qui a été troublant. Et l'autre enfant, lui, est complètement dégagé de ceci. Il ne garde pas dans l'esprit ces images. Donc ce qui est agissant, ce n'est pas le passé, mais c'est bien le passé tel qu'il est actualisé dans le souvenir à chaque instant. Parce que si on imagine qu'on est déterminé par des actions passées, on ne peut rien y faire. Le passé, c'est fini, il est terminé. On ne peut pas retourner dans le passé et dire « tiens, je vais juste changer ça, je crois que ça jouerait bien, à part dans la science-fiction ». On ne peut pas faire ceci. Le passé est terminé, révolu. Donc cette notion-là, de croire qu'on serait déterminé par son passé, ici karmique, est une manière de s'enfermer, de se déterminer. Sartre parle de la mauvaise foi dans ce cas-là. C'est pas ma faute, c'est parce que j'assume pas ma responsabilité. Je mets ma responsabilité, je la place dans ce qui s'est passé à l'autre. J'en peux rien. Si seulement il ne s'était pas passé ceci, si seulement je n'avais pas été là à ce moment. Donc Sartre parle très bien de ceci, de la mauvaise foi. Je me sens déterminé pour ne pas assumer ma liberté. Ma liberté ne veut pas dire que je peux faire tout. Si par exemple je suis handicapé à une jambe parce qu'il y a eu un accident, cette liberté n'est pas de courir comme un lapin, mais ma liberté est de faire face à cette situation. Comment est-ce que j'assume cette situation? C'est là que se situe ma liberté. Donc dès qu'on se place en tant que victime dans une situation, donc dans son destin, victime du passé, victime de ceci ou de cela, victime de ses parents, victime de tout ce qu'on peut bien imaginer, on a placé le pouvoir à l'extérieur de soi. Une victime est justement une personne qui n'a pas le pouvoir en soi. Le pouvoir, il est dans ce qui me victimise, si vous voulez. Donc, il n'y a pas de liberté possible dans la position d'une victime. Et ça, c'est pas simplement abstrait. On le sent bien, on le sent dans la méditation. Je voudrais évoquer une petite anecdote personnelle qui exprime seulement peut-être ma confusion, ou peut-être pas, mais quand nous étions aux États-Unis il y a quelques années à une rencontre des enseignants de méditation, nous avons eu une journée pour parler des abus sexuels entre enseignants et élèves. Élèves, on parle d'élèves adultes évidemment, on n'est pas dans les écoles. Et puis là, les personnes qui conduisaient ce stage très virulente, c'était intéressant, c'était deux maîtres zen, mais qui avaient été formés en ce qui concerne ces problèmes sexuels entre maîtres et disciples par une organisation chrétienne. Et surtout la femme était très virulente en parlant de prédateurs et de victimes, de toutes ces victimes. Donc on était dans un milieu californien, à San Francisco, et moi j'arrivais pas à avaler cette histoire-là. Je trouvais extrêmement bizarre qu'on place toutes ces personnes comme victimes. Non pas que je voulais défendre les enseignants, ça c'est un autre problème, mais ce qui m'intéressait c'était le sort de ces soi-disant victimes. Et je me suis dit, si on les traite comme victimes, on les fait souffrir deux fois. D'abord elles ont une aventure intime qui a mal tourné, parce qu'en général on se plaint pas si ça tourne bien, donc ça a mal tourné, voilà une souffrance. Et puis en plus on leur dit, mais c'est pas votre faute, mes pauvres chéris. Donc on leur vole même la liberté d'avoir fait un choix. Et je trouvais que là, il y avait de l'ordre de deux fois. Elles étaient deux fois victimes, entre guillemets. Elles ont une aventure qui ne s'est pas bien passée, quelles que soient les circonstances. Et puis, on les infantilisait, en voulant les traiter comme victimes. Alors, j'ai levé la main, j'ai exprimé, évidemment, mon désaccord. Mais bon, parmi un milieu d'Américains, j'ai pas eu beaucoup de succès, d'ailleurs. Avec un accent français, imaginez, voilà, évidemment, l'amour libre en France, etc. Mais pour moi, la question était vraiment une question pour ce qu'on appelait ces victimes, me dire « mais c'est terrible ». Vous rendez-vous compte, pour ces personnes, des femmes généralement, mais pas uniquement, de leur dire « mais vous êtes des victimes ». Mais c'est dramatique. Vous n'en pouvez rien, vous êtes des enfants, vous êtes victimes. Vous n'avez pas vraiment choisi ce qui vous est arrivé. C'est pas de votre faute. Pour les gens de 30, 40, 50 ans, je trouvais que c'était dramatique. Et qu'il n'y avait aucun pouvoir de guérison, si vous voulez, ou healing, comme diraient les anglo-saxons, dans ce contexte-là. Puisque ces personnes placées en tant que victimes n'avaient pas la clé de leur guérison. La clé était dans les prédateurs, comme on les appelait. Alors c'est eux peut-être qui auraient dû reconnaître leur tort, etc. Mais on ne peut pas placer, on ne peut pas dépendre comme ceci d'une autre personne. Donc il me semblait beaucoup plus enrichissant si ces personnes prenaient leurs propres responsabilités. Je ne parle pas légalement et autres, ça c'est d'autres problèmes. Je ne parle même pas du problème des gens qui abuseraient d'une situation. Ça c'est un autre problème que les organisations religieuses peuvent devoir résoudre, légalement, moralement. Mais ce qui m'intéressait, c'était le point de vue de ces personnes qui étaient dans cette situation-là. Et ce qui était intéressant, c'est que cette femme virulente qui conduisait les débats, avait été elle-même dans cette situation avec son maître zen. Et moi, je ne pense pas qu'elle avait beaucoup résolu de ses affaires en voyant la dose d'agressivité qu'il y avait dans ce qu'elle exprimait. Vous voyez ici, le fait d'être victime fait que, pour moi en tout cas, ces personnes ne pouvaient pas s'en sortir. C'est qu'au moment où elles auraient pris, en tout cas, une certaine responsabilité dans ce qu'elles en faisaient de cette expérience. Qu'est-ce qu'elle faisait maintenant qu'il y avait une possibilité de s'en sortir? Donc dans la position de victime, en méditation, on remarque ceci. Les gens méditent et puis tout d'un coup, ils se plaignent, il y a trop de pensées. Je suis victime, qu'est-ce que je fais? Il y a tellement de pensées. Je ne sais pas pourquoi il y a tellement de pensées qui surgissent dans ma méditation. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Victime de mes pensées. On se demande qui pense bien quand une personne a tellement de pensées. Et c'est très différent si tout d'un coup je prends la responsabilité de penser. Je pense, j'ai des pensées parce que je pense. Et si j'assume cette responsabilité, j'ai des pensées parce que je pense, je vais peut-être aussi prendre conscience de pourquoi je pense. Peut-être que je me rends compte que ça m'arrange bien de penser. Parce que si tout d'un coup je ne pensais pas, alors je serais peut-être en contact avec quelque chose qui est un peu plus dérangeant. Pour imaginer une légère inquiétude, une profonde inquiétude qui est couverte par ses pensées, par ses souvenirs, par cette planification, et que si tout d'un coup je ne m'arrêtais de penser, je serais bien obligé d'être en contact avec cette inquiétude. Et c'est seulement au moment où je prends la responsabilité de penser qu'à ce moment-là je pourrais m'ouvrir la possibilité de ne pas penser pour découvrir ce qu'il y a. J'ai pris l'exemple des pensées, mais on peut très bien, dans sa méditation, se plaindre de beaucoup de choses. On entend quand il y a des questions ou quand il y a un petit groupe de discussion, on entend bien le ton de la voix des personnes qui n'osent pas vraiment se plaindre, mais enfin quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive à moi, ce genre de truc. Hein? Je dis ça, mais moi je me reconnais aussi là-dedans, on n'est pas différent. Cette tendance à dire c'est quand même bête, si seulement ça n'arrivait pas. Si seulement ça, c'était pas là, alors là, la méditation, vraiment, ça s'approfondirait, là, vraiment, il y aurait quelque chose qui pourrait se passer. Si seulement. Donc ça ne dépend pas de moi. Donc ce problème de la responsabilité est très important. Dans un sutra, le Bouddha exprime ceci clairement. Il dit qu'il y a trois attitudes qui conduisent à l'inaction, qui figent, un peu comme la position de victime. Victime, on ne peut rien faire. Il dit quelles sont ces trois attitudes ou ces trois points de vue qui mènent à l'inaction, c'est-à-dire qui nous laissent dans un statu quo. Certaines personnes pensent que tout ce qu'on éprouve, soit agréable ou désagréable, tout ceci provient de ce qu'on a fait dans le passé. Donc une lecture du karma naïve, un point de vue. Certaines personnes pensent que tout ce qu'une personne éprouve, que ce soit agréable ou désagréable, tout ceci est causé par un être suprême. Une manière aussi, on pourrait dire assez naïve ou simpliste, de considérer l'existence d'un Dieu, Bon, des choses qui existaient au temps du Bouddha, évidemment. Certaines personnes pensent que tout ce qu'une personne éprouve d'agréable ou désagréable surgit simplement comme fruit du hasard. Donc c'est trois attitudes. Tout est déterminé par mon passé, tout est la faute d'un Dieu créateur, il est responsable, ou bien c'est le fruit du hasard. Bon, alors les deuxième et troisième nous intéressent un peu moins, mais il dit, dans le cas de la première vision, donc cette vision erronée du karma, il dit, dans ce cas, une personne est meurtrière à cause de ce qu'elle a fait dans le passé. Une personne est un voleur, un menteur ou une menteuse, un tricheur, une tricheuse, dû à ce qu'elle a fait dans le passé. Alors il n'y a aucun désir, aucune possibilité, aucun effort, aucun espoir de changer cet état. Vous voyez ce qu'il détermine très bien là. Si on se croit déterminé totalement par le passé, alors, voilà, ça justifie, à nouveau, c'est exactement ce que ça dirait dans la mauvaise foi, ça justifie. Moi, je suis un voleur, donc ou je suis un menteur ou une menteuse, ben voilà, ça c'est ma nature. Donc on s'enferme là-dedans. Donc on voit une notion du karma qui est clairement, qui appartient à la tradition bouddhique, mais quand même, il y a beaucoup de réflexion pour en mettre les limites aussi. Comment si on interprète ceci dans l'excès, alors on arrive à des situations qui sont absurdes. Il y a un autre sutra qui remet aussi bien les choses au clair, ce qu'on appelle le sutra des deux flèches. Et là, on est dans quelque chose qui est complètement différent que la notion du karma. On est vraiment dans la responsabilité, la prise de responsabilité pour ce qui nous arrive à chaque instant. Le Bouddha interroge les moines, il leur dit qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les êtres ordinaires et les êtres éveillés? Il y a un être ordinaire qui fait l'expérience de situations agréables, désagréables ou neutres. Un être éveillé fait l'expérience de situations agréables, désagréables ou neutres. Et dire quelle différence il y a pour dire mais à quoi ça sert d'être éveillé si de toute façon on fait l'expérience agréable, désagréable ou neutre. Et le Bouddha continue, il dit, eh bien, un être ordinaire, lorsqu'il fait l'expérience de la souffrance, par exemple, alors il se lamente, il se frappe la poitrine, il se plaint, tous les comportements d'une victime, et il se tourne vers les plaisirs sensuels pour trouver une solution. Vous voyez, il essaye de fuir la situation, donc voilà, on va se manger une bonne pizza, voilà, ou une bonne tranche de gâteau, c'est égal, mais enfin... Voilà, comme moyen, dans le fond, d'éliminer la difficulté. Un être éveillé, lorsqu'il fait une expérience difficile, ne se frappe pas la poitrine, ne se lamente pas, ne se plaint pas. Il ne se tourne pas vers les plaisirs sensuels comme solution, parce qu'il connaît une autre solution à cette difficulté, à cette souffrance, à cette solution, dans le fond, de ne pas s'identifier à la situation. Le premier, l'être ordinaire, lui, en s'identifiant à la situation, c'est ce qui fait qu'il a à subir le poids de cette difficulté, de cette expérience. Donc il cherche une fausse solution dans les plaisirs sensuels qui ne sont pas des vraies solutions, alors que l'être éveillé, lui, ne s'identifie pas à la situation. Donc ici, ce qui est intéressant, on ne va pas parler d'identification et non-identification, c'est un problème complexe qui demanderait beaucoup de temps, mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que la solution est dans l'instant. Soit je m'enferme dans l'instant par une attitude fausse, par une perception fausse, soit j'ai une perception juste dans l'instant, et à ce moment-là, je peux ne pas être victime de cette situation. Cette situation perd son caractère de contrainte. Donc ce qui est fascinant ici, c'est que on pourrait parler de l'être ordinaire comme l'être qui est dans le samsara, donc le cycle conditionné, l'être éveillé qui est dans le nirvana, mais ils sont exactement dans la même situation, ils ne sont pas dans des lieux différents, ils ne sont pas dans des chambres différentes, ils sont dans la même vie, dans la même situation. Le rapport d'une des personnes est faux à la réalité, donc il est dans le samsara. Le rapport d'une autre personne est juste, donc il est dans le nirvana, dans la liberté. Donc pas des lieux différents, ni quelque chose qui viendrait après la mort, mais simplement un rapport à la réalité qui est différent. Vous voyez, un rapport de liberté, un rapport de contrainte. Et si je suis victime, je suis dans un rapport de contrainte et je m'enferme. Donc il y a, et on sent bien dans la tradition bouddhique, je veux dire, plutôt la tradition légèrement tardive, comme dans le bouddhisme tibétain et dans le zen, cette non-résistance à la réalité, le fait de résister à la réalité est ce qui lui donne force et solidité. On peut presque le sentir physiquement, d'une manière, soit on s'y oppose, soit on la repousse, soit on l'épouse, on danse avec cette réalité, on devient un avec cette réalité et elle perd son caractère de contrainte. Et ça, à nouveau, dans la méditation, on le sent bien tant qu'on s'oppose à ce qui surgit. À des états mentaux non souhaitables, à quelques douleurs, ou qu'on est confus parce que tout d'un coup on s'attache à quelque chose d'agréable et autre, qui a le même rapport confus par rapport à l'expérience. Alors on reste conditionné. Mais ce n'est que dans cette non-résistance à la réalité, parce que toute résistance à la réalité lui suppose un degré de solidité, de réalité qu'elle n'a pas. Toute résistance à la réalité est basée, fondée sur le conditionné, comme j'ai parlé hier. Donc c'est du point de vue du conditionné, on s'enferme. Et il y a là quelque chose d'extrêmement... C'est à la fois dramatique et à la fois comique, c'est-à-dire que c'est en résistant aux difficultés du monde qu'on fait exister ces difficultés. Alors qu'en ne résistant pas, tout d'un coup on découvre qu'elles n'ont pas cette capacité de résistance, de s'opposer, et qu'on est totalement libre. À nouveau, on est devant une position de totale liberté, parce que dans la même situation, notre situation d'être humain, dans la même situation, on peut soit être libre, soit être conditionné. Mais ce n'est pas comme s'il y avait une sorte de volonté divine supérieure qui nous dise, ou naturelle, qui nous dise, voilà, vous êtes conditionné, c'est l'état de fait où vous êtes libéré. On a le choix d'être libéré ou conditionné. C'est la plus grande des libertés, on n'a même pas l'obligation d'être libéré, on peut même se choisir contraint. Qui pourrait rêver d'une plus grande liberté? C'est quelque chose d'assez extraordinaire. On pourrait dire que cette attitude de non-résistance à la réalité et cette qualité très particulière qu'on décrit dans le bouddhisme comme équanimité, équanimité qui est non-résistance, ouverture, non pas indifférence. Indifférence, c'est le fait de se détourner, de ne pas être en contact. L'équanimité, c'est une ouverture totale à l'expérience, sans parti pris, qui est, selon beaucoup de textes, la qualité qui est la plus proche du nirvana, cette qualité d'équanimité, de non-résistance. Dans la tradition tibétaine, on exprime ceci par des termes que je vous donne en tibétain pour faire intelligent, mais parce qu'ils sont, dans le fond, ils sont très précis. C'est Panglong Mepa et Je Do Mepa. Rien à repousser, rien à attirer, rien à espérer, rien à craindre. Et là aussi, on le sent presque physiquement, cette attitude de non-résistance, mais d'ouverture. Non pas l'indifférence qui serait une extrême résistance, une fermeture. Je ne veux pas être concerné par ceci. On trouve chez Nietzsche des descriptions d'attitudes un peu similaires, même si la perspective est différente, comme chez les stoïciens. Mais il y a des évocations de cet aspect-là qui sont très, très inspirants. Et aussi sans ambiguïté. Donc, Nietzsche, je le cite ici, il dit « Ma formule pour la grandeur de l'homme, c'est l'amour fati. » L'amour fati, c'est l'amour du destin, si vous voulez. Il ne faut rien demander d'autre, ni dans le passé, et ni dans l'avenir. Pour toute éternité, il faut non seulement supporter ce qui est nécessaire, et encore moins le cacher, tout idéalisme sur le mensonge devant la nécessité, il faut l'aimer. Donc il dit non seulement il faut s'ouvrir, il faut aimer ce qui surgit, même les plus grandes difficultés. Et non pas par masochisme. Mais il marque bien dans le fait de l'aimer cette ouverture. Il ne s'agit pas simplement de le supporter, de dire « bon, je ne vais pas l'éliminer », mais l'aimer veut dire cette ouverture à cette situation. voyez, cette citation de Nietzsche, elle s'applique qu'au présent, quelque chose qui est déjà là, non pas quelque chose qui va surgir. Si quelque chose va surgir, j'ai bien le choix, ici la possibilité de décider. Il arrive un grand camion qui est en train de me foncer dessus, je suis en train de traverser la route, c'est mon destin, tant pis. C'est absurde. À ce moment-là, il est encore à une certaine distance, je ne suis pas encore écrasé par le camion, donc j'ai mon destin en main, je peux choisir ce que je vais faire. Donc à nouveau, cette non-résistance. Je prends encore un exemple de Nietzsche pour parler de non-résistance, et je trouve que c'est intéressant comment il essaie de l'évoquer dans certains textes, il le fait bien sentir. Il a une autre manière d'exprimer ceci qui est extrêmement bizarre. Il a eu dans Les Grisons à Sils Maria une sorte d'illumination au sens commun du terme, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas si c'est un sens commun, mais au sens commun du terme, il en parle. Et il s'est rendu compte, il a cette vision que tout revient toujours, pour l'éternité, exactement de la même manière. On va voir ce que ça veut dire. Il parle de l'éternel retour du même. Si tout revient toujours, exactement de la même manière, ceci abolit complètement la temporalité. Il n'y a pas à attendre mieux dans l'instant suivant, puisque de toute façon, tout de toute éternité reviendra. Donc tout ceci, si vous voulez, annule complètement la temporalité et fait que ceci enlève toute attitude de vouloir espérer, etc. Toute attitude de marchandage avec la réalité. Et pour Nietzsche, d'après ce qu'il dit, ça a été pour lui une sorte d'éveil, puisqu'il parle d'illumination, où tout d'un coup il s'est rendu compte que cet acquiescement, il parle très souvent de cet extrême oui qui est dit à la vie. Il exprime ceci, il dit « Je reviendrai avec ce soleil, avec cette terre, avec cet aigle et ce serpent, c'est Zarathoustra qui parle et qui se promène avec un aigle et un serpent, non pour une vie nouvelle, ou une vie meilleure, ou une vie ressemblante, à jamais je reviendrai pour cette même et identique vie. » Dans les plus grands et les plus petits, pour à nouveau de toutes choses enseigner le retour éternel. Donc pour lui, c'est la même chose. Donc on a l'impression que cette vision d'un poète, elle est intéressante parce que tout d'un coup, comment est-ce qu'on abolit la temporalité ? On peut dire il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, comme on le fait abondamment ici, mais tout d'un coup, cette idée de l'éternel retour du même fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur la temporalité pour dire ça va changer, etc., ou j'attends, ou j'espère. On a affaire avec ceci parce que on ne peut pas attendre les jours meilleurs. Ceci me rappelle une remarque que faisait Joseph Goldstein quand il lançait la méditation. Il disait, à un moment donné dans sa méditation, il surgit l'idée que si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Pour dire, si ce n'est pas cette difficulté, c'est une autre difficulté. Donc autant faire face à celle-ci plutôt que de vouloir la prochaine. Il parle aussi d'une expérience. D'ailleurs, je vais parler d'Éternel Retour quand il a parlé de cette expérience, il disait qu'à un moment donné, il a éprouvé dans sa méditation d'immenses angoisses, mais vraiment qu'il travaillait pendant une longue période à un tel point que de passer de la position assise à la position debout, pour lui, c'était générateur d'une grande angoisse. Et alors qu'il méditait en marchant, la pensée lui est venue que de toute façon, même si jusqu'à la fin de ses jours, il allait rester avec cette angoisse, peu importe. Et c'est tout d'un coup, ça a tout changé. Tout changé. C'est pour ça que j'ai évoqué l'éternel retour en parlant avec lui. Je dis, c'est exactement cette attitude. Et alors ? Et tout d'un coup, il y a cette ouverture à la réalité, comme c'est le cas ici dans ce qui se passait pour lui, et tout change. C'est la résistance qui lui donnait sa force. Ici, ce qui me semble intéressant, c'est des poètes, des penseurs qui essaient d'évoquer cette sensibilité à leur manière et qui l'expriment d'une manière un peu différente que celle qu'on trouve dans les textes bouddhiques, mais qui est aussi parlante et qui met en lumière quand Nietzsche dit qu'il faut aussi l'aimer tout d'un coup. Il n'y a plus de marchandage possible où on accepte, on accueille, puis du coin de l'œil, mais quand même, on ne l'aime pas vraiment. Non, l'aimer, s'ouvrir complètement. Il y a encore un autre exemple que je veux choisir d'illustration de ceci, qui est le mythe de Sisyphe. C'est que Sisyphe avait été condamné à rouler sa pierre éternellement en haut de la montagne, et qu'avant d'arriver en haut, elle redescendait, et que constamment, il devait recommencer. Donc, c'est quand même pas chouette, une situation comme ça, quoi. On peut imaginer, il y a quand même mieux. Et Camus, il dit, il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc c'est quand même intéressant, pourquoi l'imaginer heureux? On peut réfléchir à ceci. Et vous voyez, il a été condamné pour l'éternité. Ça, c'est une grande chance pour lui. Parce que si on l'avait condamné pour 1000 ans, 2000 ans ou 3000 ans, il aurait toujours attendu la fin. Ça aurait été dramatique, imaginez, tous les jours, voilà, un jour de moins, si vous comptez sur 3000 ans, moins un jour, 3000 ans, moins deux jours, ça aurait été dramatique. Mais condamné pour l'éternité, il n'avait pas le choix que de trouver sa liberté dans ceci même. Sans attendre autre chose, en ne résistant pas à cette tâche. Et tout d'un coup, il se trouve libre, heureux, nous dit Camus, il se trouve libre dans cette tâche, il n'essaie pas de lui trouver un sens, elle ne va pas l'amener quelque part. Parce qu'il a nulle part où aller. Vous voyez, le fait qu'on ait enlevé tout espoir, c'est un cadeau qui lui a été fait, et non pas une contrainte. Le fait qu'on lui ait enlevé tout espoir fait qu'il trouve qu'il s'ouvre totalement à cette absence de sens. C'est évidemment absurde, sa situation. Ça n'a pas de sens de rouler un rocher pour qu'il descende, mais il ne se préoccupe plus du sens, il ne cherche pas un sens. Il est simplement là, ouvert totalement, dans sa situation, sans résister à sa situation, et il trouve la liberté là-dedans. Donc à nouveau, c'est l'enfer s'il veut trouver un sens, résister, attendre, trouver une porte de sortie. Il n'y en a pas, selon le mythe. Mais dans la mesure où il ne résiste pas à cette situation, il trouve la liberté dans cette situation elle-même. Ce qui, évidemment, nous laisse dire que si Sisyphe n'a pas d'excuse qui justifierait le fait de ne pas s'éveiller, on n'en a pas beaucoup non plus. Donc j'ai dit que la responsabilité ouvrirait la liberté. D'abord, on a vu que la liberté, elle amène une responsabilité, et que le fait de se sentir responsable pour ce qui nous arrive, et non plus victime, elle apporte de la liberté. Quand j'assume complètement la responsabilité pour ce qui se passe pour moi, je suis là complètement avec, plutôt qu'en train de résister, de me plaindre, de me lamenter, que cette responsabilité par rapport à ce qui m'arrive, elle apporte de la liberté. Donc on a liberté donne responsabilité, la responsabilité ouvre la porte de la liberté. Ils sont étroitement liés. Et ça d'une manière simple, on le sent bien. Des gens qui se plaignent toujours de tout ce qui leur arrive, on a l'impression qu'effectivement ils n'ont aucune possibilité. D'ailleurs, il leur arrive toujours les mêmes choses. À nouveau, ce n'est pas un jugement de valeur ou autre, mais on sent bien que ces personnes s'enferment dans quelque chose.